je vous invite à revivre la série que j'ai consacrée à toute l'aventure du légendaire festival de Woodstock en 1969.
Quand ce groupe noir chante ailleurs et que toutes les 500 000 types qui sont là lèvent la main et font ailleurs, ailleurs, on a l'impression d'être au congrès de Nuremberg.
Bon.
Dans l'épisode précédent...
Ladies and gentlemen, Mr. Joe Cocker, let's go for Sunday!
Yes, yes, well, good afternoon. Right. Feeling all right.
Ladies and gentlemen, if you please.
France Inter et la RTBF.
A half a million young people can get together and have 3 days of fun with you.
Very good trip.
How are you out there? Are you gonna be okay?
Woodstock 1969. Mishka Assayas.
Le soleil s'est levé depuis longtemps sur le dernier des 3 jours de paix et de musique ce dimanche 17 août 1969. Il y a eu les orages, les bourrasques, le bourbier, les courts-circuits et calamités en tout genre, les pénuries de sandwichs et de hamburgers, les files d'attente interminables pour aller aux toilettes, les mauvais trips catastrophiques pour ceux qui ont consommé les mauvaises pilules, les blessures diverses pour tous ceux et celles qui, urbains pour la plupart, et se baladant pieds nus, se sont coupés avec des tessons de bouteilles et des languettes métalliques, des canettes de soda. Et puis, ce dimanche matin, il y a eu un miracle. Il a enfin fait beau, on a oublié la fatigue, l'inconfort, toutes les nuisances. Euphorisés par les ondes d'extase qu'a transmises la musique des Who et de Sly and the Family Stone, par d'autres sources d'extase aussi, chimiques, les festivaliers vivent une sorte d'euphorie pastorale. Certains, je vous l'ai raconté, sont mis tout nus pour se baigner dans le lac à proximité du site. Ils redeviennent innocents comme les enfants qu'ils ont cessé d'être il n'y a pas si longtemps. Et même le sexe, collectif ou non, dans les bois avoisinants, semble spontané et innocent. Mais ça ne durera pas. Rien ne dure à Woodstock. Tout est magique, dans l'instant, inouï et fulgurant. Alors que le temps se fait de plus en plus lourd et que des nuages menaçants s'accumulent, la musique reprend vers 3 heures de l'après-midi avec un inconnu.
Yeah.
Alors, même si vous n'avez pas vu le film Woodstock, vous avez presque certainement reconnu le chanteur anglais Joe Cocker. Les organisateurs du festival ont fait le pari de lancer ce chanteur sorti de nulle part, qui n'a à son actif qu'un succès dans son pays, une puissante reprise de With a Little Help From My Friends des Beatles, qui sera le clou de son récital à Woodstock.
All of town.
What do you see when you turn out the lights?
I don't see nothing but a show.
Lui et ses musiciens viennent de débarquer en hélicoptère et n'ont pas eu le temps de réfléchir à ce qui se passe autour d'eux. On les a propulsés aussitôt sur scène. Alors, Cocker et son groupe ont une recette simple, dont le chanteur ne déviera d'ailleurs jamais de toute sa carrière, reprendre des chansons d'auteurs prestigieux, Bob Dylan, Leonard Cohen, ou en l'occurrence les Beatles, dans le style frénétique dérivé du gospel de Ray Charles, qui est son grand modèle. Joe Cocker arbore deux des accessoires, pileux et vestimentaire, qui marquent l'été 1969 chez les hippies. Les rouflaquettes et le t-shirt à la teinture multicolore, comme éclaboussé, qui dans son cas est plus réussi que celle de John Sebastian. Mais enfin, pour le reste, Joe Cocker ne ressemble absolument à personne. Sans aucun souci de son apparence et de son image, il s'immerge totalement dans la musique. Il ferme les yeux, il grimace. Son corps est agité par une sorte de possession dont il ne semble pas pleinement conscient. Gesticulant, les mains crispées et les doigts recourbés, il pince les cordes d'une guitare invisible. Personne n'a jamais vu quelqu'un comme lui sur une scène. Joe Cocker fascine, subjugue et en même temps révulse un peu. Chanter pour lui ne semble pas un métier, mais une sorte de thérapie personnelle. Se demande d'où il peut bien sortir, et bien en l'occurrence de la ville minière de Sheffield dans le nord de l'Angleterre. À ses débuts, ce passionné de blues et de soul travaillait le jour à réparer des conduites de gaz pour le compte de la compagnie nationale de l'Est des Midlands. Et puis le soir, il enfilait un complet noir, il mettait un nœud papillon et il chantait dans les clubs ouvriers de Sheffield. La découverte du psychédélisme et des stimulants afférents ont absolument tout changé pour lui, sa vie et sa façon d'aborder la musique. Lui et son camarade Chris Stainton, clavier de son groupe, commencent alors à s'envoler dans de longues improvisations où, comme Sly Stone, Cocker cherche à monter de plus en plus haut. Anglais présent au festival, Joe Cocker est le seul qui, grâce au documentaire tourné par Michael Wadley, qui sortira en 1970 dans le monde entier, connaîtra une gloire universelle. Malgré quelques accidents liés à une absorption excessive de drogues licites et illicites, la popularité de Joe Cocker ne se démentira jamais jusqu'à sa disparition en 2014 à l'âge de 70 ans. Joe Cocker semble avoir défié les dieux. Lorsqu'il quitte la scène, l'orage éclate. Une pluie diluvienne, pire que toutes celles qui ont précédé, s'abat sur les festivaliers. Pour certains, franchement, c'est trop. Ils abandonnent sur place leur sac de couchage englué au sol par la boue et commencent une lente migration pour quitter ce bourbier. D'autres, encore en majorité, restent. C'est alors que certains inventent ce chant indigène dit de la nation de Woodstock, invocation désespérée au dieu de la pluie, afin que celui-ci cesse de punir ce rassemblement innocent. Le fameux « Wo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- scène naît en cette occasion. Et ce chant tribal est rythmé par des instruments de percussion de fortune et traversé par le cri désespéré de « No rain, no rain ». Et le dieu de la pluie mettra pourtant deux bonnes heures à réagir avant de calmer sa colère, poussant d'autres festivaliers encore à quitter les lieux. Une star inattendue est alors poussée sur scène par les organisateurs. Max Yasger, le fermier qui a loué son champ, est venu voir comment les choses se passaient. Cet homme fatigué, au cœur malade, traverse toutes sortes de déboires. Ses voisins cultivateurs sont furieux de la chienlit qu'il a laissé s'installer. Yasger se demande d'ailleurs dans quel état il va retrouver son champ et si celui-ci va pouvoir être remis en état pour la culture. Il aurait toutes les raisons de se repentir de sa décision et pourtant non, pas du tout. Alors que ses sympathies sont plutôt républicaines et qu'il aurait tendance spontanément à se méfier des agitateurs et fauteurs de troubles révolutionnaires, eh bien Yasger se déclare fier d'offrir à ces jeunes gens la possibilité d'être ensemble et de célébrer leurs valeurs nouvelles, même si elles ne sont pas les siennes et qu'au fond, il ne les comprend pas. Max Yasger, un peu embarrassé, avec une sa chemise blanche à manches courtes et ses grosses lunettes d'écaille, prend le micro. Ses premières paroles sont aussitôt acclamées. « Je ne suis qu'un fermier. » Et il poursuit, disant en substance. « Je suis incapable de m'exprimer devant 20 personnes, encore moins devant une telle foule. Mais je crois qu'ensemble, vous avez prouvé quelque chose au monde entier. Il n'y a jamais eu autant de monde réuni en un seul lieu. Vous avez manqué d'eau, de nourriture, de tout, mais vous avez montré que 500 000 personnes pouvaient se rassembler pour 3 jours de plaisir et de musique et rien d'autre. Et que Dieu vous bénisse pour ça. » La foule se lève pour l'acclamer. Un héros est né. Tristement, Max Yasger mourra 4 ans plus tard.
Woodstock 1969 sur France Inter et la RTBF. Mishka Assayas.
Pour les organisateurs, c'est un vrai cauchemar. Le sol est tellement détrempé qu'ils craignent que les gaines des câbles électriques qui passent sous la foule, devant la scène, ne s'érodent et qu'on assiste à une électrocution collective. Oui, c'est sérieux. Un des organisateurs, John Roberts, avoue qu'il a à ce moment-là carrément envisagé le suicide. Les tours métalliques qui soutiennent l'éclairage de la scène commencent à se balancer dangereusement, menaçant de s'effondrer. Le régisseur, John Morris, ne sachant plus à quel saint se vouer, appelle son père, un expert de l'armée en logistique. Dans ces conditions apocalyptiques, le chanteur Country Joe se produit à nouveau, cette fois accompagné de son groupe électrique The Fish. La plupart des chansons de rock psychédélique qu'il interprète ce soir-là ne vont pas déclencher l'enthousiasme collectif, ce que, vu les conditions, on comprend sans peine. Et il faudra que Country Joe fasse à nouveau scander le fameux cri « F-U-C-K, fuck !» pour obtenir une ovation. Depuis 3 heures de l'après-midi, Un musicien anglais, Alvin Lee, se balade dans la foule, enfin au moment où il ne pleut pas. Lui et son groupe, Ten Years After, ont été comme les autres, conduits sur place en hélicoptère. Alors régulièrement, il se rend backstage pour prendre des nouvelles. Est-ce qu'on va bientôt pouvoir jouer ? On lui demande d'attendre encore, il y a des problèmes à régler, tout n'est pas résolu. Une fois la tempête calmée, Alvin Lee revient à la charge. Bon, alors on peut y aller là maintenant, c'est possible ? C'est alors que, manque de chance, Country Joe and the Fish grille la politesse à Ten Years After et Alvin Lee et ses camarades doivent encore ronger leurs freins. Et quand, après la fin du concert de Country Joe and the Fish, Alvin Lee sollicite à nouveau l'organisation, on lui répond « Non, 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 c'est trop dangereux, vous risquez de vous électrocuter. » Alvin Lee, cette fois, rien ne l'arrête. Il dit « Allez, on y va, j'en ai marre. Si je meurs d'une décharge, c'est pas grave, on va vendre plein de disques. » Et lui et ses camarades s'élancent.
On. I love my baby with red dress on. I'm gonna shake it all out, darling. I'm gonna have fun, fun. Woo! Oh, baby, I love that way you walk. Yeah. One more money, too far to show. Need to get rid of that. Go, cat, go, don't. Step on my blue suede shoes. Make it to the family of my blue suede shoes. Back that up, down the front. When she brought my bed that night, I got a room and mean as she can be. Top down my fence, it's all more mean to me. Yeah, coming on a baby, whole lot of sugar going on. Coming on a baby, whole lot of sugar going on. When you think it, whole lot of sugar going on. Shake it, baby, shake. But shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Well, love it, baby, I love when walk to me go. How, oh, how? Oh. Ooh, yeah. Whoa, yeah. Ooh, baby, I love that way you walk. How, oh, how, how, how? How, oh, how, how, how? I'll shoot you right now. Knock you off your feet. Whoa, oh, baby. I got a crane. Yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah, yeah. Love you, baby. God, God knows I do. I love you, baby. Like God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby.
Alvin Lee, c'est pas du tout quelqu'un du genre à faire depuis la scène de grandes déclarations enflammées sur la, entre guillemets, nation de Woodstock, ni à s'extasier sur la merveilleuse promesse d'une jeunesse sur le point de changer le monde. C'est pas trop son truc. La seule concession qu'il a faite à l'esprit du temps, c'est le signe de la paix qu'il a collé sur la caisse de sa guitare, une Gibson. Sa mission est très simple, jouer du rock'n'roll et du blues boogie sans prétention et faire passer au public un bon moment. Mais, l'énergie et la passion hors du commun qu'il va y mettre rendront sa prestation légendaire. Alvin Lee sortira du festival transfiguré, couronné en Guitar Hero de toute une génération grâce à une version épique, longue de près de 10 minutes, de sa composition I'm Going Home, qui clôt le concert de Ten Years After et qui pour beaucoup restera un des sommets du festival. Beaucoup sont fascinés par la rapidité, comme surnaturelle, surhumaine, des doigts du guitariste glissant sur le manche, et aussi par la façon dont il entre en transe pour chanter ce blues qu'il semble inventer au fur et à mesure, y insérant notamment un fragment du Whole Lot of Shakin' Goin' On, popularisé par Jerry Lee Lewis. Alvin Lee modifiera à la fin les paroles par une variante de circonstance « I'm going home by helicopter ».
Look out, babe, I'm coming to get you one more time. Go on, huh? We'll be right back.
Alors, qui était cet Alvin Lee, fondateur du groupe qu'on vient d'entendre, Ten Years After, dont le passage a été un des sommets de ces trois jours de paix et de musique? Eh bien, c'est alors un musicien aguerri qui joue de façon professionnelle depuis au moins l'âge de 17 ans. En 1962, son premier groupe, les J-Men, a succédé aux Beatles au fameux Star Club de Hambourg. Il connaît depuis l'enfance le répertoire du rock'n'roll comme sa poche. Il a eu très tôt la révélation du blues en découvrant le musicien légendaire Big Bill Brunzi, qu'il a même rencontré à l'âge de 12 ans. Et le groupe qu'il a formé en 66 s'appelle Ten Years After, hein, 10 ans après, pour une raison simple. Né environ 10 ans après la naissance du rock'n'roll, eh bien, il entend célébrer ses sources. C'est d'ailleurs alors le cas en Grande-Bretagne de nombreux guitaristes puristes, comme Eric Clapton ou Peter Green, qui se sont donnés pour mission de propager l'évangile du blues sous une forme pure et inaltérée. Alors, ce qui distingue Ten Years After, c'est une rythmique swingante, très jazzy, tout comme le jeu de l'organiste Chick Churchill, qui est un musicien de formation classique. Au tournant des années 60 et 70, Ten Years After, grâce à d'excellents albums comme Stonehenge et va s'imposer comme un des groupes les plus populaires de son temps, proposant un blues rock varié à la touche toujours légère, laissant la place aux rêves et à la douceur. Et puis les guitaristes amateurs de ces années-là n'oublient pas non plus qu'ils se sont fait les doigts sur l'intro de Love Like a Man de Ten Years After, qui fut un peu le Seven Nation Army, un des White Stripes de ces années-là. Alvin Lee, tristement, nous a quittés en 2013.
Fog. He said, I will fix your wreck if
Arrive sur scène sur le coup de 10h30 du soir, un frisson parcourt une bonne part de l'assistance. Oui, il faut comprendre. C'est le groupe qui a accompagné Bob Dylan à Woodstock. Le vrai village qui s'appelle Woodstock, situé à une centaine de kilomètres à peine du festival. C'est ce groupe-là qui s'est présenté sur scène. Oui, il a accompagné Dylan lors de séances légendaires qui ont eu lieu dans une maison qui s'appelait Big Pink, parce qu'elle était peinte en rose, et des chansons ont été enregistrées dans la cave de cette maison, et elles circulent alors sous forme de disques pirates. Alors évidemment, l'attente est grande, puisque officiellement, Bob Dylan n'était pas censé être là, mais il s'est passé tellement de choses inattendues et pas officielles au festival, qu'on se dit qu'après tout, tout peut se produire. Oui, ils sont là, en chair et en os, ces musiciens, et peut-être... doit-on se dire dans le public, ces musiciens ont-ils vu la veille Dylan ? Peut-être qu'ils l'ont persuadé in extremis de venir. Oui, peut-être que Dylan, à l'écart, quelque part, sous une tente, caché sous un grand manteau, va-t-il se glisser, tel un pèlerin anonyme, et se dévoiler sur scène dans toute sa lumière, surgissant sans crier gare, et, à nouveau, prendre tout le monde par surprise. Dylan est capable de tout, et au festival, comme je vous l'ai dit, c'est normal d'attendre un miracle. Alors, les membres... un miracle qui n'arrivera pas, hein, ça, je vends la mèche. Les membres, tout le monde le sait d'ailleurs, les membres de The Band semblent alors complètement décalés par rapport à l'événement. Arrivés au dernier moment, sans vraiment participer à la fête, à mille lieues de l'idéalisme hippie, ces musiciens qui sont au fond des traditionalistes font tomber sur le festival un autre climat. Un climat qu'on pourrait définir comme une ambiance de recueillement crépusculaire. On croirait qu'ils viennent d'un autre temps, d'un autre monde. Barbus, comme à l'époque de la guerre de sécession, ils portent des gilets avec des poches à gousset d'autrefois, des chapeaux en cuir bouilli sortis d'un vieux western en noir et blanc. C'est comme si des clichés sépia remontaient des débuts de la photographie, fixant des hors-la-loi, justiciers et prêcheurs itinérants au regard torve, prenaient vie un siècle et demi plus tard. Leurs racines semblent puiser dans le vieux Sud et ses traditions. C'est leur batteur, Levon Helm, qui a initié ses camarades aux racines de la musique sudiste, country, soul et gospel. Ce Levon Helm a émigré à la fin des années 50 de son Arkansas natal pour se retrouver à Toronto, au Canada. C'est là qu'il a rencontré le guitariste et chanteur Robbie Robertson, le pianiste Richard Manuel, le bassiste et violoniste Rick Danko et le clavier Garth Hudson. D'abord baptisés les Hawks, ceux-ci se sont aguerris en accompagnant le chanteur de rock'n'roll Ronnie Hawkins, un compatriote de Helm, lui aussi venu de l'Arkansas. Et c'est le guitariste de blues John Hammond Jr., le fils du directeur artistique de Columbia, celui-là même qui a découvert Bob Dylan, qui a découvert, enthousiaste, The Band à New York et les a présentés à Bob Dylan, qui était à la recherche d'un groupe pour partir en tournée en 65-66. Et c'est ainsi que tous, sauf Levenhelm, ont accompagné Dylan partout sur les scènes du monde, là où le passage de Bob Dylan du folk au rock électrique a été diversement apprécié. Depuis 1968, The Band, un nom délibérément simple, est un groupe autonome dont le premier album, Music from Big Pink, à la sobriété classique, est un succès à contre-courant en cette période de surenchère sonore. Sur la scène du festival, les chansons du Band, lestées par le deuil et l'inquiétude, sonnent comme autant de chants funèbres sur cette terre vibrante d'espoir. Ils interprètent dans une ambiance de recueillement trois chansons de Bob Dylan, Tears of Rage, This Wheel's on Fire et I Shall Be Released. Et puis aussi leur propre tube, on a entendu le gospel The Weight, entonné par la voix déchirante du batteur Levenhelm. The Band fera l'objet d'un documentaire de Martin Scorsese en 1978, The Last Waltz, un concert filmé auquel participera cette fois Bob Dylan et dont le sommet d'ailleurs sera une fulgurante apparition du chanteur et guitariste de blues Muddy Waters. Le groupe, épuisé par 15 ans de tournées incessantes et miné par des dissensions, cessera d'exister peu de temps après. Robbie Robertson deviendra par la suite un collaborateur privilégié de Martin Scorsese. Il est d'ailleurs le seul survivant du groupe avec Garth Hudson.
Very Good Trip, Woodstock 1969.
And welcome with us, friends, Johnny Winter.
Sur France Inter et la RTBF.
Il y avait plein de boue et puis plein de monde aussi. Voilà le commentaire laconique qu'a laissé le guitariste texan Johnny Winter après son passage au festival de Woodstock. Cet éblouissant guitariste n'était pas du tout du genre à avoir de grandes idées sur la, entre guillemets, nation de Woodstock. Pour lui, le festival n'est qu'un concert comme un autre avec juste un peu plus de monde. Il vient de jouer à Détroit et à Chicago, il a simplement enchaîné. L'année précédente, en 68, un reporter du magazine Rolling Stone a découvert Johnny Winter sur scène et s'est enflammé. Il l'a décrit comme, je cite, « un albinos qui louche, à la longue chevelure laineuse, jouant le blues de toutes ses tripes avec une fluidité qu'on n'a jamais entendue jusqu'ici ». Ce qui a été suffisant pour attirer l'attention de Bill Graham, qui l'a fait jouer au Fillmore East à New York. Et puis, alerté, un envoyé des disques Columbia a signé un contrat à Johnny Winter, dont le premier album sans titre est paru début 1969. Originaire de la ville de Beaumont, c'est une ville texane qui est située pas loin de la frontière de la Louisiane, ce guitariste s'est longtemps nourri de country and western, hein, c'est la région, un style qu'il aime pas trop, et puis de rock and roll. Alors là, c'est un style qu'il adore, de Chuck Berry à Little Richard, avant de s'orienter vers un blues très pur. Et ce passionné qu'est Johnny Winter est parvenu, un soir de 1963, faut dire que l'alcool l'a aidé, à convaincre un de ses grands modèles, B.B. King, de le laisser monter sur scène dans un bar de Beaumont. Et le maître a alors accepté de lui prêter sa guitare, et Johnny Winter, qui était âgé seulement de 19 ans, a fait un triomphe devant un public qui était presque intégralement noir. Au festival de Woodstock, au moment où Johnny Winter monte sur scène, armé de sa Fender à 12 cordes, dont il joue aussi en slide, c'est-à-dire qu'avec un petit tube métallique qui fait glisser sur le manche, et bien, comme par miracle, la pluie s'arrête. Johnny Winter joue au doigt, sans médiator, à une vitesse impressionnante, avec juste un onglet fixé à son pouce de ses longs doigts fins. Son toucher est d'une rare délicatesse, et puis il dialogue aussi en chantant avec sa guitare, comme si sa voix était une seconde guitare solo. Je crois qu'on a joué un bon concert, conclura Johnny Winter. Et son frère cadet, Edgar, est aussi présent au clavier pour deux titres, Edgar Winter, qui connaîtra aussi au début des années 70 un grand succès dans un style entre blues, soul et pop. Alors, le parcours de Johnny Winter n'a pas été très heureux. Une accoutumance à l'héroïne a sévèrement handicapé sa carrière à ses débuts et il a vite quitté les premiers plans, surtout avec le changement des modes auxquels il n'avait pas vraiment l'envie de s'acclimater. Mais il n'a jamais abandonné. Johnny Winter a régulièrement joué et enregistré avec la même ferveur jusqu'à sa mort en 2014. C'était deux jours seulement après s'être produit à un festival de blues à Cahors, dans le Nord. Une version éblouissante de Johnny B. Goode de Chuck Berry, un classique tant de groupes de rock et de blues ont repris par Johnny Winter.
Crying sin, right up the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign?
Il y a un groupe pour lequel Woodstock, c'est bien le seul d'ailleurs, a été une expérience absolument sans histoire. C'est Blood, Sweat and Tears. Les 8 musiciens du groupe et leur équipe ont pu parvenir sur le site sans encombre, 1h30 aller, 1h30 retour. Ils ont trouvé une route dégagée, ils ont dû à peine attendre avant de jouer. Alors franchement, indépendamment de ça qui relève de l'anecdote, c'est difficile de trouver des musiciens davantage éloignés de l'esprit hippie associé à Woodstock. Ces sages New-Yorkais préfèrent de loin pour se divertir jouer au bowling plutôt que s'embarquer dans des conversations sans fin sur l'avenir de la société. On l'a oublié, mais leur fusion savante de variété, soul et jazz, qui pourrait évoquer une version un peu académique de Sly and the Family Stone, la folie en moins, fait alors de Blood, Sweat and Tears, hein, vous savez, c'est une allusion à la célèbre formule apocryphe hein, de Churchill qui promettait à son peuple du sang, de la sueur et des larmes, un des groupes les plus populaires du moment. Leur tube You've Made Me So Very Happy et Spinning Wheel ont raté de peu le numéro 1 et leur deuxième album sans titre, paru en 69, a ravi le Grammy Award de l'année à Abbey Road des Beatles. Et oui.
Painted pony, let the spinning wheel fly.
La nuit est tombée depuis longtemps et après le départ de Blood, Sweat and Tears, tous les musiciens présents au festival se pressent au bord de la scène pour assister à l'événement que tout le monde attend. Le second concert public du groupe dont tout le monde parle, Crosby, Stills and Nash. C'est un peu une surprise parce qu'il n'est pas à l'affiche. En tout cas, ce sera avant Jimi Hendrix, l'ultime point culminant du festival. Qu'on vous racontera dans l'épisode prochain, le dernier de cette série consacrée à ces 3 jours de paix et de musique que, croyez-moi, nous quitterons tous à regret. Merci infiniment à Marie-Hélène Fauquet pour sa réalisation inventive et inspirée, à Mathilde Verfailly pour sa passion et sa rigueur, à Charles Pélabon à la technique et à Fabrice Desmaz. Et je vous dis à la prochaine. Fin de l'épisode de ce soir. On se retrouve demain pour suivre la suite du feuilleton.